CFM, le mag, tous les jours, la vie du Villefranchois.
Jean-Loup Fourquet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur et salarié associé de la société coopérative Palenka, animateur formateur à la performance managériale, et vous interviendrez sur invitation de la communauté de communes du Grand Villefranchois jeudi 13 septembre au théâtre municipal de Villefranche de Rouergue pour participer à l'animation de la deuxième soirée d'Ineco, soirée qui a pour vocation de fédérer les entreprises du Grand Villefranchois, une soirée thématique qui a pour intitulé les nouveaux modes de management au service de la performance de l'entreprise. Alors pour ma part, la dernière fois que j'ai entendu parler de management, c'était il y a une dizaine d'années avec les suicides chez France Télécom. Et quand on parle de performance d'entreprise, généralement il est question de stratégie, d'offre, d'organisation, de productivité. On est sur des fondements statistiques et mathématiques. On va être très très loin de tout ça.
Oui, effectivement, on va être très très loin de tout ça. Après, c'est pas des théories qui sont toutes nouvelles, mais c'est des théories et des nouveaux styles de management qui émergent de plus en plus et qui font école maintenant. Et on en dit un peu tout et rien. On met beaucoup de choses derrière certains concepts, alors notamment les nouveaux types de management, notamment le concept d'entreprise libérée, par exemple, dont on parle assez souvent. Et du coup, on va avoir une conférence, on va avoir un témoignage pour essayer d'en savoir plus sur ce qu'on met derrière ces mots-là et leurs origines, si on peut s'en servir ou pas, dans quel cadre. Voilà, on va essayer de décortiquer tout ça.
Est-ce qu'on peut adapter ces innovations, on peut en parler comme ça, de management à n'importe quelle entreprise, ou c'est valable pour des grands groupes? Alors je pense qu'il y a des secteurs d'activité, je pense à l'informatique notamment, qui est assez précurseur sur l'innovation en management.
En fait, c'est pas forcément une histoire de taille d'entreprise, c'est pas forcément une question de domaine d'activité. En fait, ce dont on va parler, ce qu'il faut éviter, c'est de penser qu'on va pouvoir appliquer des recettes toutes faites. Donc parce que tel groupe a appliqué telle recette de management, ils ont mis en place ce type d'analytique salariale avec tel type de décision, ben nous, ça nous plaît, on va faire exactement la même chose. En fait, ça dépend vraiment des contextes et des domaines d'activité et des histoires et de chacun, de chaque entreprise. Je pense que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est un peu d'où découlent ces nouveaux types de management et essayer de voir comment, dans son entreprise, comment on peut décliner opérationnellement, par exemple, un grand paradigme de ces nouveaux types de management qui est le management par la confiance. Le management par la confiance, dans une entreprise A, ça va passer par exemple par un certain type de communication et de transparence sur tel ou tel sujet, et dans une autre entreprise, ça passera par un autre biais. Et en fait, ce qu'il faut arriver à faire, c'est remonter à le paradigme de base qui a changé pour ce nouveau type de management et le décliner opérationnellement en fonction de l'histoire, du contexte et des personnes de l'entreprise.
Le modèle managérial n'a pas bougé depuis quelques années, tout de même, peut-être 10, 20, peut-être un siècle. C'est un peu nouveau dans le monde de l'entreprise de repenser l'humain peut-être avant l'économique.
Alors, oui et non. En fait, on va parler de ça aussi. Il y a un livre qui a fait écho et qui est très très bon, qui est un livre qui s'appelle « Réinventer les organisations » de Frédéric Laloux. Ça sera d'ailleurs l'introduction de la conférence. Où lui, il replace les organisations dans une perspective historique et il dit les organisations ont toujours évolué. Alors la différence entre maintenant et avant, c'est que peut-être les évolutions se font de plus en plus rapidement. Mais par exemple, les structures bureaucratiques ont été très populaires, ou en tout cas c'était comme ça que marchaient les entreprises, par exemple au début du XXe siècle. Ensuite, il y a eu des entreprises peut-être qui ont laissé plus de place à l'innovation, mais en maintenant une hiérarchie assez ferme. Et c'est sous ce paradigme-là que fonctionnent la plupart des organisations aujourd'hui. Et maintenant, en fait, on va vers de nouveaux types d'organisations, et dans ces nouveaux types d'organisations, forcément, il va y avoir des nouveaux types de management. Donc en fait, il y a toujours eu une évolution, historiquement, de la manière dont ont évolué les organisations. Le changement là, c'est qu'en fait, un peu comme d'ailleurs historiquement ce qui se passe dans l'histoire moderne, c'est que tout va de plus en plus vite, on échange de plus en plus de données, et l'évolution des organisations se fait aussi de plus en plus vite. Et du coup, c'est là où peut-être il y a une différence, c'est que les managements et les types de management évoluent aujourd'hui beaucoup plus vite qu'ils évoluaient avant. Donc on a l'impression qu'ils n'avaient pas du tout évolué pendant très longtemps et que là, ils évoluent d'un coup. Mais en fait, c'est un petit peu plus linéaire que ça quand même.
Vous avez parlé de confiance, mais j'imagine que oui. L'engagement aussi des salariés compte, le bien-être, le plaisir et puis la liberté qu'on peut avoir au travail, ça participe quelque part, au final, au bout du bout, à la performance de l'entreprise.
Alors, il y a, en gros, dans les nouveaux types d'organisations, donc qu'on parle d'entreprises libérées ou d'une sorte de synonyme qui s'appelle les entreprises qui fonctionnent sous un paradigme opale, comme ils les appellent, mais c'est comme des, enfin, c'est l'équivalent d'entreprise libérée. Il y a effectivement, on parle beaucoup de la liberté et l'autre face de la liberté des salariés, qui est la responsabilité. Il va y avoir aussi, on va parler beaucoup de transparence, c'est-à-dire à quel point désormais c'est important d'avoir une communication transparente et de partager l'info. Aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'égalité, c'est-à-dire qu'en gros, ce n'est pas parce que je suis un chef que j'ai droit à un bureau plus grand avec une plus belle vue. Donc là, c'est vraiment toute la valeur de chaque personne de manière intrinsèque est la même, après avec des compétences et des responsabilités différentes. Et effectivement, après, un climat apaisé où chacun va pouvoir s'épanouir et trouver du sens dans ce qu'il fait. Donc ça c'est les paradigmes effectivement dont je parlais tout à l'heure de base de ces entreprises-là. Après, tous ces paradigmes de base, en fonction de la taille de l'entreprise et du domaine d'activité, vont se décliner opérationnellement de manière différente.
Qu'est-ce qui pourrait pousser une entreprise à s'engager dans ces nouveaux modes de management ?
En fait, ce que disent pas mal d'études et pas mal aussi d'expérimentations que nous on a pu faire dans le cadre de Palanca, parce que dans le cadre de Palanca on accompagne des entreprises qui le veulent aller vers ces nouveaux types d'organisation et donc ces nouveaux types de gouvernance et de management, c'est que en gros il n'y a pas des modèles d'organisation qui sont mieux ou moins bien. Il y a des modèles d'organisation qui marchent en fonction de contextes différents. Les nouveaux types de management ou les nouveaux types d'organisation sont a priori plus adaptés à un monde et un contexte plus complexe. Donc quand il y a plus de changements, que il y a beaucoup plus d'informations, qu'il faut être beaucoup plus réactif et beaucoup plus innovant, c'est des structures et des types de management et d'organisation qui fonctionnent mieux dans ces contextes un petit peu changeants où on doit être agile. Donc si on évolue, on sent qu'on va évoluer dans des contextes comme ça, c'est intéressant de se poser ces questions-là. Et un autre critère à prendre en compte, c'est que je pense qu'il faut que les dirigeants de ces entreprises, sincèrement, soient intéressés par ce genre de paradigme de confiance, de liberté, de transparence, d'égalité. C'est pas la peine non plus d'aller contre nature. Il y a des dirigeants qui fonctionnent très bien sous des modèles peut-être un peu plus à l'ancienne, et dans ce cas-là, je pense pas qu'il y ait besoin d'aller contre son fonctionnement naturel. Il vaut mieux essayer de perfectionner le paradigme dans lequel on fonctionne soi-même avant d'aller chercher à essayer de chasser le naturel.
Le paradigme, vous l'avez répété plusieurs fois, c'est le modèle qu'on va appliquer à son entreprise en termes de...
Oui, c'est ça. C'est le modèle de base, en fait, sur lequel on fonctionne. On peut en avoir plusieurs, effectivement. Ce que je disais, par exemple, la bureaucratie, à l'époque, les institutions, par exemple, administratives, fonctionnent sur des modèles très hiérarchiques, très peu transversaux, qui ont fait leur preuve. Donc ça c'est un type de modèle, et par exemple le modèle d'entreprise libérée fonctionne avec des principes beaucoup plus transversaux, des principes où chacun a la responsabilité et a le droit de sortir de son petit de sa fiche de poste. En fait, c'est par exemple le modèle d'entreprise libérée, il n'y a pas vraiment de fiche de poste. Chacun quelque part la connaissance de toute l'entreprise et peut prendre quelque part beaucoup de décisions, il y a beaucoup d'autonomie. Et en gros, c'est un modèle qui fonctionne à partir du moment où les dirigeants sont tout à fait OK avec le fait de laisser beaucoup d'autonomie et de faire confiance à tout le monde. C'est vraiment des modèles de fonctionnement qui sont différents, et je pense qu'il faut faire tendre son entreprise, dont on est dirigeant, vers le modèle qui nous convient aussi le mieux. Donc ça, c'est un des paramètres à prendre en compte. C'est vraiment la manière dont on fonctionne nous-mêmes.
C'est une question de conviction aussi, j'imagine, et puis de changement culturel, de valeur. C'est une philosophie d'entreprise, au final.
C'est en gros, il faut pas le faire parce que on a lu un livre et que en fait le livre dit que on va être beaucoup plus rentable si on fonctionne comme ça. C'est quelque chose de beaucoup plus large que juste la rentabilité financière. C'est quelque chose, comme vous dites, c'est une philosophie d'entreprise, une philosophie de management, et je pense qu'il faut y aller qu'à partir du moment où on est vraiment d'accord avec cette philosophie-là. Est-ce que pas la mettre en place pour des objectifs, mais plutôt la mettre en place parce que pour nous, en tant que dirigeants, elle a du sens et elle nous semble correspondre à nos envies, à notre manière de voir les choses.
Est-ce que vous avez un exemple concret à nous donner d'une entreprise qui a mis en place un certain mode de fonctionnement managérial, un aménagement pour les salariés, pour le bien de l'entreprise ?
Vous avez plein d'entreprises dont on entend beaucoup parler. Vous avez l'entreprise dont on parle et dont on reparle. C'est par exemple dans le domaine industriel, vous avez une entreprise qui s'appelle Favi. En fait, on en parle beaucoup parce qu'effectivement, elle est assez significative dans le sens où c'est vraiment une entreprise qui fait des pièces pour l'automobile, des boîtes de vitesse en cuivre. Donc on est vraiment dans le dur de dur. C'est une des seules entreprises encore qui fait ça en France, parce que sinon tout a été délocalisé dans des pays à faible coût de main d'œuvre, et qui est arrivé effectivement à mettre en place des types de management qui pour une usine sont non seulement innovants mais quasi révolutionnaires, parce que ça fonctionne en petite équipe autonome, chaque équipe est responsable de ses clients, et il n'y a pas de contremaître qui vous disent quoi faire. Il y a beaucoup moins de gens qui contrôlent et beaucoup plus de gens qui font. Donc ça c'est un exemple, c'est une référence. Après, vous l'avez dit vous-même, dans les entreprises d'informatique, vous avez beaucoup de modèles de management qui sont intéressants, que ce soit dans le modèle dans l'industrie, ou que ce soit même dans les projets d'informatique ouverts où les gens c'est des projets très organique, dans le sens où il n'y a pas vraiment de chef de projet, mais tout le monde contribue et au final ça donne quelque chose de très bonne qualité. Dans ces exemples-là, en termes de management, vous avez quelque chose qui n'est pas industriel mais qui fonctionne aussi de manière très organique, c'est quelque chose comme Wikipédia, où quelque part on arrive à faire la plus grosse encyclopédie avec le même taux d'erreur que dans les encyclopédies payantes avant, avec les gens qui font des contributions volontaires de ci de là, et au final très peu de salariés qui structurent tout ça.
Le collectif a son importance aussi, hein, très certainement dans une entreprise. L'entente, la confiance qu'on a entre collègues, parce que le monde de l'entreprise, c'est un peu la cour de récréation. C'est pas moi, c'est lui. Il y a un côté, la peur de la faute ou de l'erreur, c'est très présent, ça, encore aujourd'hui. Je sais pas si c'est typiquement français, mais c'est quand même, on le retrouve à tous les étages, hein. Entreprise, association, en fait, collectivité.
Non, vous avez raison, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment que les dirigeants aient le niveau de conscience ou soient vraiment convaincus de la confiance, de la liberté, de la responsabilité, parce que ça va être à eux, quelque part, d'assurer et de diffuser une culture qui va aller à l'encontre des conditionnements individuels de tous les salariés, qui vont effectivement être conditionnés à la compétition, à la non-confiance, à tirer la couverture à soi, qui est en gros le conditionnement moyen de la société. Et les dirigeants vont, et dans toutes ces structures en fait, c'est aussi un point commun, c'est que vous avez quand même des dirigeants charismatiques et qui sont des leaders, qui arrivent en gros par leur conviction à amener toute l'entreprise vers ces nouveaux modèles de fonctionnement qui effectivement dans l'éducation actuelle ne sont pas forcément communs.
Encore un mot peut-être sur le plaisir pris au travail. Je crois que les chiffres sont catastrophiques. C'est 10% des salariés qui prennent du plaisir à se lever le matin et aller au travail.
Oui, c'est une des raisons pour lesquelles ces nouveaux types de management ont de plus en plus le vent en poupe. C'est effectivement parce que se pose la question de l'engagement. Vous parliez d'ailleurs la dernière fois où on a parlé du management, c'était avec les suicides. Donc là, c'est quand même top du top de ce qu'on fait en termes de désengagement. Mais effectivement, le but de ça, c'est de donner du sens au travail de chacun et cette énergie qu'on va mettre pour que chacun trouve son sens et que l'entreprise fonctionne de manière un peu plus organique, ça va être rentable parce que en fait, dans le monde actuel, avec les envies aussi de plus en plus individualiste de chacun quelque part, si on fait pas ça, ça suscite un tel désengagement qu'en fait on n'est plus capable de produire de la valeur ajoutée. Donc vu que le désengagement se fait est de plus en plus fort, ça devient très très intéressant de repenser la manière dont on fait et dont on a un modèle d'entreprise pour justement venir rechercher l'engagement de tous. Et effectivement, quand on arrive dans des entreprises à impliquer et à engager et à donner du sens au travail de chacun, mais forcément, quelque part, on arrive à reproduire la valeur ajoutée.
Voilà, donner du sens, c'est sortir du faire pour faire, juste pour l'entreprise et remplir sa fiche de poste et sa mission. Vous êtes, et je l'ai pas dit, vous êtes également conseiller en responsabilité sociétale des entreprises. De quoi il est question, RSE ?
Oui, RSE. Mais en fait, la RSE, alors du coup, je vais reboucler avec votre dernière intervention et revenir sur la RSE. Quelque chose qui est hyper important dans ces nouveaux modèles d'entreprise, c'est qu'en gros, comme vous dites, on ne fait pas pour faire, on fait parce qu'en gros, on croit à la mission de l'entreprise. Et donc du coup, il y a une mission et on ne fait pas les choses au nom d'une rentabilité, on fait des choses parce qu'elles correspondent à la mission que l'entreprise s'est donnée. Et par exemple, je sais que pour Favi, leur mission, c'est recréer de l'emploi durable dans le bassin industriel dans lequel ils sont. C'est ça la mission. Et après, quelle que soit la manière dont on atteint cette mission, le but vraiment ultime de l'entreprise, c'est ça. Et du coup, ça fait une boussole au nom de laquelle tout le monde va pouvoir prendre des décisions qui semblent aller ou pas dans cette direction. En gros, la RSE, dont vous parlez, la responsabilité sociétale des entreprises, donc ce dans quoi parle Anka Travail, c'est de dire que l'entreprise a une responsabilité par rapport à la société qui n'est pas simplement d'être rentable. C'est-à-dire que une entreprise, elle a énormément d'impact, que ce soit dans la vie de ses salariés, que ce soit avec son produit et ce que les gens vont faire du produit, que ce soit dans son implantation et dans ses conséquences de l'environnement tout autour, que ce soit l'environnement au sens chlorophyllien du terme, mmh. ou que ce soit le territoire tout autour, et elle a aussi des impacts en fonction de quel fournisseur elle choisit, etc., etc. Le but de la RSE, c'est de dire, aujourd'hui, c'est très très dur pour une entreprise ou pour un individu de savoir en gros quels impacts on a, que ce soit avant la fabrication, que ce soit après la fabrication, parce qu'on est dans un monde justement qui est très très complexe. Où on a 4000 fournisseurs, on a 10 segments clients, après nos clients, il va y avoir des clients de clients, on a des transporteurs dans tous les sens. Donc la RSE, c'est une grille qui nous permet de passer au crible de pas mal de critères et de pas mal de catégories tous les impacts qu'on peut avoir. Parce qu'en gros, même si on est très bien intentionné, c'est assez dur de se rendre compte de tous les impacts qu'on a en tant qu'entreprise. Et la responsabilité sociale des entreprises, c'est vraiment une grille et un référentiel qui nous permet, sur ce référentiel-là, de dire ben, sur cette telle thématique, on est pas mauvais, on a tel impact. Sur cette thématique, on a vraiment des progrès à faire pour améliorer tel impact, on peut faire telle chose, etc., etc. Donc, par exemple, le référentiel, si on veut le simplifier, on va essayer de voir les impacts qu'on a sur l'environnement, on va essayer de voir les impacts qu'on a sociaux, c'est-à-dire au sein de l'entreprise, les impacts qu'on a sur notre territoire, sur le développement local, les impacts qu'on a économiques, c'est-à-dire la répartition de la valeur entre les différents acteurs, et après les impacts qu'on a en termes de gouvernance, de transparence par rapport en interne, aux parties prenantes internes et par rapport à toutes les parties prenantes externes. Donc ça, voilà, c'est différents impacts qu'on a, et nous, en tant qu'accompagnants RSE, on va essayer d'accompagner les entreprises à regarder quels impacts elle a et comment elle peut faire pour les améliorer.
On rappelle à Jean-Loup Fourquier, vous interviendrez jeudi 13 septembre sur invitation de la communauté de communes du Grand Villefranchois pour l'animation de cette deuxième soirée d'Ineco qui a pour thème les nouveaux modes de management au service de la performance de l'entreprise. Est-ce que vous allez adapter votre présentation sur cette thématique au tissu économique Villefranchois? Est-ce que vous avez déjà pris des renseignements sur quelles entreprises vivaient sur notre territoire?
Moi, j'ai eu des contacts avec la DESPAT qui m'a dit en gros quel type de structure il y avait sur le territoire. Donc en gros, je vais adapter tout ce que je vais dire aux entreprises que je connais le mieux aussi, parce que c'est les entreprises avec lesquelles on travaille, qui sont des entreprises plutôt de taille entre 2 et 50 salariés, dans des entreprises de cette taille-là, qui ont les moyens qu'elles ont et qui sont des entreprises souvent plutôt avec un esprit familial. Et c'est aussi les entreprises, nous, les coopératives, par exemple, avec lesquelles on travaille, c'est souvent ce type d'entreprise-là. Donc, je pense que la présentation va être faite pour leur donner la parole, pour moi rebondir avec nos expériences à nous de ce qui a été fait et ce qui est possible. De notre expérience de nous aussi, Palanca, qui est une coopérative avec 10 employés où on teste des choses avec des réussites et aussi des échecs. Et je vais prendre contact avec l'intervenant, monsieur Issar, avec qui je vais partager la présentation et qui va lui venir témoigner de ce qu'ils font dans son entreprise.
Voilà, on l'a entendu, hein, c'est pas une soirée mode d'emploi, il y a pas de modèle. Chaque entreprise d'ailleurs peut réinventer un nouveau modèle selon sa taille, selon ses valeurs. J'imagine que ce sera votre conclusion.
C'est ça, pour moi ce qui est important c'est de retenir pourquoi on va vers ça, quelles sont les grandes forces qui font que ces nouveaux types de management, ces nouveaux types d'organisation émergent, de voir ce qui marche ailleurs, pourquoi ça marche et en quoi on peut s'en inspirer pour faire sa propre recette. Je pense pas que ça soit la peine non plus de réinventer la poudre à chaque fois et de repartir de zéro, mais de partir en gros des grands principes, des nouveaux modèles d'organisation qui fonctionnent, essayer de se les approprier à son rythme et avec ses propres ingrédients. C'est ça qui je pense est vraiment intéressant et c'est ça que je voudrais faire passer lors de cette soirée.
Alors, une soirée pour les entreprises, mais si les salariés se déplacent pour assister à cette conférence, ça peut être aussi riche en termes d'échanges, puisque ça vient de là aussi, les mouvements dans une entreprise, les salariés peuvent les porter aussi.
En fait, le fait que les dirigeants le portent est une condition nécessaire, mais pas suffisante. C'est-à-dire que ce genre de transformation ne peut pas se faire contre la volonté des dirigeants ou des gens qui aiment plus l'énergie d'entreprise. Par contre, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire non plus sans la participation des salariés, parce que justement, c'est le but de ce genre de démarche, c'est qu'elle soit portée, incarnée et qu'elle implique tout le monde, donc vraiment tous les collaborateurs, tous les salariés de l'entreprise.
On vous retrouve jeudi 13 septembre à 18h30 au Théâtre Municipal de Villefranche de Rouergue. Jean-Louis Fourquet, merci d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions. D'avance, une intervention passionnante qui donnera très certainement des pistes et des idées pour nos entreprises du Grand Villefranchois et pourquoi pas les transformer en conviction. Merci beaucoup.
Oui, merci. Au revoir.
CFM, le MAG. Tous les jours, la vie du Villefranchois.